Bien.
J'ai fait le ménage.
Tu as fait le ménage?
J'ai tout ramassé. Ton gin tonic.
Bonjour à tous. Comment vous allez? Vous allez bien ce matin, comme il faut? Vos amènes sont froids, comme dehors. Alors, je sais que vous allez bien. Des fois, on n'a pas envie de parler fort, on veut rester encore dans l'esprit d'adoration. C'est bien, c'est parfait. Alors, donc ce matin, nous allons continuer notre enseignement, comme on le dit sans reproche à son retour. Alors, nous avons vu qu'il y a deux semaines passées et la semaine dernière, Trevor nous a parlé vivement, avec joie, du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'en vient. Avez-vous hâte? Notre espérance, ce pourquoi nous vivons sur la terre, ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons, ce pourquoi nous sommes là ce matin pour adorer et célébrer le Seigneur, ce pourquoi réellement chaque dimanche ou chaque semaine nous nous rencontrons dans des endroits pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour exhorter, pour visiter et prendre soin des uns des autres. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que nous avons l'espérance que notre Seigneur va venir et que ses promesses qu'il a faites sont vraies et amen. Amen. Et c'est pourquoi nous faisons cela, sinon ça n'a pas de sens. Alors donc ce matin, il m'a été donné d'apporter quelque chose sur le sujet que nous allons traiter, l'Église et ses manières. L'Église modèle et ses manières. Nous allons parler réellement de la famille. Nous sommes une famille et c'est ça que nous allons parler. Mais avant, j'aimerais que nous regardions un peu ce que nous allons voir dans mon plan d'action. Les points que je vais traiter, et puis nous allons terminer par la conclusion comme d'habitude. Habitude, créature, d'habitude, c'est ça. La relation fraternelle entre les croyants et leurs dirigeants. L'Église modèle et ses manières, premièrement, nous allons parler de la relation qui doit exister entre le peuple de Dieu et les responsables que nous sommes. Dans une famille, nous sommes tous au courant que chaque famille a ses réalités, a ses règles, a ses façons de fonctionner, a ses lois et ses principes, n'est-ce pas? Et cela varie d'une famille à l'autre. On est tous d'accord avec ça. Et vu que cela varie d'une famille à l'autre, nous savons aussi en même temps que s'il y a des règles dans une famille, on met ces règles-là ou ces principes pour le bon fonctionnement de la famille, pour apporter la sérénité, pour amener une compréhension dans la famille, pour permettre à cette famille-là d'être un endroit paisible, un endroit joyeux, un endroit où il y a la chaleur humaine, un endroit de sécurité, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous faisons. Et le peuple de Dieu n'en est pas différent. Le peuple de Dieu aussi a besoin des principes pour fonctionner. Le peuple de Dieu a aussi des règles et des fonctions pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir conserver l'unité, pour pouvoir conserver la paix, pour pouvoir conserver l'harmonie à l'intérieur de l'Église, pour pouvoir fonctionner comme une vraie famille, parce que c'est comme ça Dieu nous voit. Dieu du haut des cieux, quand il regarde sur la terre, il voit une famille rassemblée, unie en Jésus-Christ, qui est venue rassembler. Et Jésus même dit cela à Israël avant de partir. Il a pleuré sur Jérusalem en entrant à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, je suis venu pour te rassembler comme une mère pour le rassembler ses poussins sous ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Mais votre maison vous sera restée vide. Pourquoi? Il a rassemblé. Et quand il part, Jésus laisse un message. Il parle et il prie pour cette famille que nous sommes. Dans Jean chapitre 17, verset 17, quand nous regardons cela, Jésus prie pour son Église. Il prie pour l'unité de l'Église. Il dit ceci, je vais porter mes lunettes pour commencer à mieux les voir. Dans Jean 17, à partir de verset 20 à 21, s'il vous plaît. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Donc Jésus croit à quelque chose. Il prie pour l'unité de la famille. Il prie pour l'union. Il prie pour l'harmonie dans sa famille, même quand il s'en va. Et dans Éphésiens, il est aussi écrit que Dieu veut que nous soyons dans l'unité. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité. Par comment ? Par le lien de la paix. Dans Éphésiens, il nous dit cela. Tout cela pour que la famille soit en harmonie. Alors, nous allons lire notre texte de ce matin. Notre passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 15. Il dit ici, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez ceux qui sont faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique. Il écrit cet épître à l'église de Thessalonique, comme nous avons vu, une église modèle, une église quasiment parfaite, une église où il y avait l'amour fraternel, une église où la volonté de Dieu s'exerçait à l'intérieur, malgré sa jeunesse. Alors cette église-là reçoit l'alerte de l'apôtre Paul pour les aider encore davantage à vivre selon le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit, je vous exhorte, je vous invite, je vous prie. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. C'est ce qu'il dit. Ayez de la considération. On va dire pour qui ? Pour ceux qui travaillent parmi vous. Nous devons avoir de la considération pour tout le monde, n'est-ce pas? Nous devons respecter tout le monde, c'est normal. Et quand je suis petit, mon papa m'a enseigné, tu respectes tout le monde. Même ton camarade, tu dois lui donner du respect. Mais tu dois encore respecter les plus vieux à cause de leur droit de naissance. Parce que cela est digne et normal. Mais ici, l'apôtre Paul dit que les gens doivent respecter. Nous devons respecter tout le monde dans l'église, mais il y a certaines personnes dans l'église qui doivent avoir une coche de plus dans le respect qu'on doit leur donner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre qui le dit. Il dit, ayez de la considération pour eux, pour ceux qui travaillent parmi vous, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, pour ceux qui vous exhortent. Ceux-là, c'est qui ? Ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, qui vous exhortent, il s'agit de nos dirigeants, de nos frères et sœurs. Il s'agit du collège des anciens. Dieu a établi ceux-là dans l'Église comme ses représentants pour travailler, si je peux m'exprimer comme ça. Ils sont des sous-bergers, parce que le berger des bergers, c'est Jésus-Christ. Mais eux, ils sont redevables au Seigneur directement. Ils vont rendre des comptes, même si on est redevable les uns envers les autres, mais en premier, les anciens sont redevables aux anciens et au Seigneur. Alors Dieu dit, ayez de la considération pour eux. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire avoir de la considération pour eux, ces dirigeants-là? Avoir de la considération, c'est traiter quelqu'un avec respect. C'est traiter quelqu'un avec reconnaissance, de l'estime, avec de l'estime. Et c'est traiter la personne aussi avec admiration, avec même de la révérence, on pourrait dire comme ça. Un très grand respect. Je ne parle pas de l'adoration. Un vrai respect. C'est ce que l'apôtre Paul demande à l'église de Thessalonique. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi il avait besoin de les écrire comme ça? Est-ce qu'il n'avait pas de respect pour leurs dirigeants? Je pense que oui. Ou probablement on peut dire oui. Dans le sens que, oui et non, dans le sens qu'il y avait des gens dans l'église qui vivaient d'une autre façon. Si vous vous souvenez, je vous avais rappelé, dans le chapitre 3, à partir du verset 11, qu'il y avait des gens dans l'église qui refusaient de travailler. Et ils vivaient au crochet des autres chrétiens. Ils abusaient de la communion fraternelle. Ils refusaient de travailler parce que leur arrière-plan grec qui leur disait « Si je suis quelqu'un, je ne travaille plus, c'est les autres qui travaillent pour moi. » Le travail manuel était mal vu. Ce n'était pas compris par les gens. Alors, eux, les chrétiens, qu'ils étaient réellement, la plupart qui sont sauvés, étaient des esclaves, des gens qui travaillaient dans les shops, si on pourrait dire comme ça. Alors, quand ils sont devenus chrétiens, eux aussi, ils commencent à dire « Non, ils veulent se comporter comme les autres. Ils ne veulent pas se salir les mains. » Mais si tu ne te salis pas tes mains, qui va te nourrir, mon frère? Qui va te nourrir, ma sœur? Alors donc, ils vivaient au crochet des autres. Et l'apôtre Paul écrit, d'ici quelqu'un, dans le chapitre 2, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, on trouve la réponse là-bas, où il les écrit, il dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc probablement, quand ils ont commencé à mettre cela en application, il se peut que des gens ont commencé à respecter contre l'autorité, à dire beaucoup de choses, à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, l'apôtre Paul les écrit. Ayez de la considération pour vos dirigeants. Respectez-les. Honorez-les. La question ce matin, avez-vous de la considération pour vos dirigeants, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine? Avons-nous de la considération pour nos dirigeants? Avons-nous du respect pour eux? Est-ce que nous les honorons? Est-ce que les anciens de l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine peuvent dire et se lever pour dire « Oui, le peuple nous respecte. » C'est une question qui revient à chacun. Moi, je garde ma réponse pour moi. Vous répondez pour vous. Amen. Avons-nous du respect pour nos dirigeants? Si nous avons du respect, comment cela doit se manifester? Si j'ai du respect pour mes dirigeants, je ne les critique pas. Si j'ai du respect pour les dirigeants, j'obéis, je fais ce que Dieu demande, il me demande de faire. Je ne suis pas là pour les conduire, je suis là pour exécuter, occuper ce qu'il nous dit de faire. Ils ne sont pas parfaits, oui. Ils n'ont pas la science infuse, oui. Ils ne sont pas divins, non. Ils sont des frères et des sœurs comme nous. Mais Dieu les a donné une responsabilité. Nous devons nous soumettre pour qu'ils puissent mener le travail de Dieu à bon port. Amen. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et quand j'étais jeune chrétien, vu que je venais d'un arrière-plan musulman, alors c'était très, très, très radicaux là-bas. Et dans ce milieu-là, c'est radical. Et mes parents, s'ils me demandaient quelque chose, il ne me disait pas, Adama, s'il te plaît, ça te tente d'aller faire ça. Non, non, non. Adama, je vais boire de l'eau. C'est pas, ça peut attendre demain. Non, c'est maintenant. Adama, s'il te plaît, va au champ, va chercher telle chose. Je n'ai pas à dire, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je vais le faire demain. Non, non, non. Je fais tout de suite. Quand je suis devenu chrétien, vous savez ce que ça m'a aidé? Le Seigneur m'a beaucoup aidé avec ça. Une fois, j'ai été négligent dans le travail de Dieu. C'est comme si le Seigneur a saisi ce moment-là pour me parler. Dis si c'était ton père à la maison, ta maman qui t'avait dit de faire ça, est-ce que ça traînerait? Non. Mais pourquoi moi je t'ai dit de le faire et ça traîne encore depuis des jours? Pourquoi? Est-ce que ton père est meilleur que moi? T'as-tu racheté à la croix? Hey, je vous dis que je chéquais dans mes pantalons. Mais c'est vrai. Tout dépend du milieu dans lequel nous venons, notre arrière-plan, comment nous regardons l'autorité, comment nous regardons les dirigeants. Au Québec, dans notre belle province, nous sommes réfracteurs à l'autorité. Toute autorité est suspecte. Le gouvernement est suspect. Les policiers sont suspects. Seuls les Hells Angels ne sont pas suspects. Tout le monde est suspect. Ce n'est pas biblique. Dieu veut que nous ayons du respect pour nos dirigeants. S'il vous plaît, frères et sœurs, respectons-les. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il nous dit de les respecter parce qu'ils doivent rendre compte pour notre âme. Ils veillent sur notre âme. Les anciens dans l'église veillent sur notre âme. Même moi-même, en tant qu'ancien, je suis soumis au collège des anciens. Je me soumets à eux. En tant qu'ouvrier plein temps ou pasteur plein temps, je me soumets à la collégialité. Je ne suis pas au-dessus de la collégialité. La soumission mutuelle. Parce que tout l'ensemble, on a des comptes à rendre. Et je me suis donné ça comme devise personnelle. Et avec ma femme, j'ai dit à ma femme, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Nous n'allons jamais nous élever contre l'autorité de l'Église. Nous allons nous soumettre à l'autorité de l'Église. Je suis là pour les aider à accomplir la volonté de Dieu et non m'opposer à la volonté de Dieu. S'il me dit d'aller à droite, je m'en vais à droite. S'il me dit d'aller à gauche, je m'en vais à gauche. Mais ils répondront à Dieu. S'ils me mettent, ils m'induisent dans l'erreur. Ils seront responsables à cela. Ils répondront devant Dieu. Mais Dieu ne dira pas, Adama, à cause de ta rébellion, à cause de ton manque de soumission, ils n'ont pas pu accomplir ce que je leur avais demandé de faire parce que tu t'es pas soumis. Je dis, quand moi je vais me tenir devant le Seigneur, ça c'est la dernière des choses que j'aimerais entendre. Alors ce matin, à quoi ressemble ta soumission? À quoi ressemble ton amour pour le peuple de Dieu, pour tes responsables? Comment tu le manifestes concrètement? Tu les calomnies, tu les critiques dans le dos? Tu ris avec eux devant tout le monde, mais derrière tu dis autre chose? Tu chantes avec tout le monde, mais derrière tu dis autre chose? Tu pries avec tout le monde, mais derrière tu dis autre chose? Tu calomnies l'autorité de l'Église, tu calomnies l'Église, tu calomnies tes frères, tu calomnies tes sœurs, et tu les traites de n'importe quoi. Et puis après, tu viens dire, Seigneur, je t'aime. Il dit, hypocrite, éloigne-toi de moi. Parce que comment tu peux m'aimer si tu n'aimes pas ceux qui te voient? Donc, un, ayons de la considération. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Les anciens, les dirigeants qui dirigent bien, qui sont des responsables. Mais est-ce qu'on ne peut pas reprendre les responsables? Oui, on peut le reprendre. Parce que la Bible donne des avertissements même à des responsables dans la parole de Dieu. Ils doivent se comporter avec dignité, dans la droiture. Ils doivent se comporter mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils doivent marcher une à deux, trois coches plus que le peuple dans leur marche, dans leur sainteté et dans leur vie de chrétien. Alors, ils sont repris. Mais l'Écriture dit qu'on leur doit double honneur. Ça ne veut pas dire double salaire. Je crois que le CA n'a pas entendu ça. Hein? Non, non, non. On dit double honneur, double respect. On doit les respecter, même s'ils ont un salaire, mais ils doivent être respectés. On ne dit pas de faire le plaventrisme devant eux. Non, on doit les respecter. Ce sont nos frères, c'est des humains, ils ne sont pas Dieu. Amen. Ils doivent être respectés et non être adorés. Si vous les mettez trop en haut, ce serait dangereux pour eux. Je vous prie, ne nous mettez jamais en haut. Laissez-nous tels que nous sommes. Respectez-nous simplement. Point à la ligne. Amen. Pour ceux qui ne le font pas, ceux qui le font déjà, je vous encourage, persévérez dedans. Continuez de le faire parce que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut et Hébreux nous confirme cela. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Il ne dit pas si ça vous tente parce que le verbe est à l'impératif. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Ça voudrait dire de la considération, du respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Et qu'ils soient ainsi. Dieu dit qu'ils soient comme ça. Ainsi soit-il, qu'il soit ainsi. Pourquoi? Afin qu'il fasse avec joie et non avec gémissement. Ce qui ne sera pas d'aucun avantage pour vous. C'est-à-dire que quand les dirigeants de l'Église doivent gémir, s'ils ne dorment pas, s'ils gémissent à cause du poids du peuple, à cause des critiques du peuple, de la calomnie du peuple, ils ne se sentent pas soutenus et qu'ils font des nuits blanches et qu'ils font des burn-out, la Bible dit que ça ne marche pas à notre avantage. L'Église ne progresse pas. Si toi, ta parole plutôt, n'est pas pour faire exceller l'Église, ça est pour faire descendre. Si ce n'est pas pour enlever les embûches devant les anciens, c'est de mettre des bâtons et de les faire des jambettes. Là, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. En ce moment, pose-toi la question, est-ce que tu travailles avec Dieu ou tu travailles contre Dieu? Les dirigeants, il dit, ayez beaucoup d'affection pour eux. C'est le verset 13. Il dit, ayez beaucoup d'affection pour eux. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir de l'affection pour quelqu'un? Ayez beaucoup d'affection pour eux. À cause de l'œuvre qu'ils font, à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Donc, à cause qu'ils travaillent parmi vous, ayez beaucoup d'affection pour eux. Non seulement vous devez avoir de la considération pour eux, ayez de la tendresse pour eux. Ayez beaucoup d'amour pour eux. Faites-leur sentir que vous les aimez. Et quand vous leur parlez, que ça soit vrai. Que votre oui soit oui. Quand tu me souris, je vais sentir ton vrai sourire et non un masque. Vous comprenez? Quand vous nous souriez, on veut voir ça. Et c'est, je parle au nom de tous les anciens, pas à mon nom seulement. Même ceux qui sont de cette église, ceux qui sont d'ailleurs. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et nous-mêmes, en tant que leaders, nous devons avoir du respect pour les autres leaders. On n'a pas à les calomnier, à les critiquer devant les troupeaux et à les détruire. Ça ne fonctionne pas. Donc, ayons beaucoup d'affection. Pourquoi? À cause qu'ils sont au service de Dieu. Il ne dit pas qu'il faut les respecter parce qu'ils sont beaux. Il ne dit pas qu'il faut les respecter parce qu'ils sont gentils. Il ne dit pas qu'il faut les respecter parce qu'ils sont, eux là, ils déjeunent tous les matins avec Dieu. Il ne dit pas qu'il faut les respecter parce qu'ils savent faire beaucoup d'autres choses. Non, il dit respecte-les simplement à cause qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Au moins, ils ne sont pas parfaits. Ils ne font rien peut-être de super. Peut-être même dans leur français qu'ils parlent comme moi, ils font trop de fautes. Mais Dieu dit de les respecter simplement à cause que c'est lui qui les a engagés. Si tu t'attaques au serviteur de Dieu, tu t'attaques à celui qui l'a engagé. Veux-tu te battre avec Dieu? Aimeriez-vous vous battre avec Dieu? Moi, non. C'est pourquoi je veux respecter tous les autres. Amen. Pourquoi? Ici, il dit « soyez en paix ». Et le « soyez en paix » n'est pas là au hasard. Entre vous, soyez en paix entre vous. Ce n'est pas pour décorer le texte. Ça voudrait dire que si nous appliquons cela, la paix va demeurer dans la famille de Dieu. On sera une famille unie. Et quand le leadership dans une famille, quand le père de famille est écouté, quand la mère de famille est écoutée, et quand les grands frères et tous ceux qui sont impliqués sont écoutés, et que le travail est fait comme il faut, il y a l'harmonie dans la famille. Il y a la joie dans la famille. Et même vos voisins veulent venir vivre chez vous. Pourquoi? Parce que chez vous est intéressant. Parce qu'il y a de l'ordre. Parce qu'il y a de la paix. Mais si ce n'est pas le cas, même si tout le monde vient, tout le monde veut se sauver 30 minutes après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas agréable. Et nous, on veut que quand les gens viennent à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, qu'ils demeurent. Amen. Et ils ne peuvent demeurer autrement que quand ils voient qu'il y a la paix au Cap de la Madeleine, quand ils voient qu'il y a la paix entre nous, quand ils voient qu'il y a la paix et le respect que nous avons pour nos responsables et pour chaque responsable dans des ministères. Ici, je l'ai parlé, il parle des leaders, des anciens. Mais on peut l'élargir, l'application. Le respect qu'on doit donner à ceux qui font le ménage, c'est des responsables de leur département. Et ceux qui sont le CIA, quel respect on leur donne? Et tous ceux qui sont impliqués dans la musique et dans d'autres choses, comment est-ce que nous les respectons? Nos diacres, avons-nous du respect pour eux? Et tout cela, vous voyez, on peut élargir. Et même à la maison, vos papas, votre maman, comment est-ce que vous la respectez? Comment est-ce que vous les respectez? Ils sont aussi des leaders qui dirigent la maison, qui conduisent la famille. Quel respect est-ce qu'on leur réserve? Ou bien quand on leur parle, on dit, ben, va te faire voir ailleurs. C'est ce qu'on leur dit. Alors, s'il vous plaît, frères, ayons du respect pour l'autorité dans l'Église en commençant par les, ce que Dieu nous demande. Maintenant, nous regardons. Si on a fini tout ça, je suis la relation entre nous. Nous allons regarder le verset 14 et le verset 15. Il nous dit, nous vous en prions aussi, frères. Ayez, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de la patience envers tous. Verset 15, il dit, gardez-vous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien, soit entre vous soit entre tous. Ici, nous savons que dans une famille, les familles varient d'une façon à l'autre. Et chaque famille a ses réalités. Dans une famille, vous allez trouver des enfants qui accusent, qui attaquent les autres. Vous allez trouver d'autres sont joyeux, ainsi de suite. Chaque famille a ses réalités. Mais là, on nous demande, dit, reprenez. Dans la famille, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avertir. Nous devons avertir qui ? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et comme je vous l'avais déjà dit au départ, ceux qui vivaient dans le désordre, c'était ceux-là qui refusaient de travailler et qui vivaient au crochet des autres. C'était le désordre. Et l'apôtre Paul dit, reprenez-les. Et dans ce passage, nous pouvons comprendre que l'avertissement est adressé généralement, c'est les anciens habituellement qui avertissent, qui corrigent, qui redressent, qui reprennent, qui exhortent dans la normalité. Mais ici, dans ce passage, c'est étendu à toute l'Église, à toute la famille de Dieu, parce que nous sommes une famille. Dans la famille, nous avons le droit d'avoir le regard les uns sur les autres. Hébreux 10, 24, 25 nous dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, Hébreux nous demande de veiller les uns sur les... Alors donc, si je veille sur toi, tu ne peux pas dire, ce n'est pas de mes affaires. Quand un frère ou une sœur fait quelque chose, on va le voir, on dit, frère, ce que tu es en train de faire, vraiment, je pense que ce n'est pas bon. L'Écriture n'est pas d'accord avec ça. Tu n'as pas à dire, ce n'est pas de mes affaires. Ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Non, 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 je me mêle de ce qui me regarde. Parce qu'on fait partie de la même famille. Parce que tu es mon frère. Parce que tu es ma sœur. Et ce que tu fais m'atteint. Et atteint l'image de la famille. Et atteint l'image et la gloire de Dieu dans le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la réalité. Nous sommes une famille où on ne l'est pas. Parce que quand je porte quelque chose, ça atteint Dieu. La gloire de Dieu. Vous savez ce que le diable fait? Le diable sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement parce qu'il n'a pas la capacité ni la force. Et il attaque les enfants de Dieu. Il pousse les enfants de Dieu à commettre un péché et après il se vire vers Dieu. Il dit, hé, je t'ai eu. Je t'ai eu. Pourquoi? Parce que quand il arrive à commettre, à mettre un enfant de Dieu dans le trouble, alors lui, c'est sa façon de tirer vengeance de Dieu. Parce que Dieu nous aime, sa gloire et son honneur est attachée à nous. Et ce que nous faisons a une répercussion dans le ciel, mais aussi dans l'Église. C'est pourquoi on a le droit de prendre soin des uns des autres pour l'harmonie dans la famille de Dieu. Je ne peux pas te voir vivre dans le péché, à côté ton frère vit, ah, on ne peut pas dire, on va courir venir voir le pasteur, on va voir des anciens. Hey, il faut aller voir telle personne là, il vit dans le péché. Mais toi, tu as été le premier à le voir, non? Oui, mais dis-le lui, l'Écriture dit, reprends-le, c'est ton droit, exhorte-le. Et s'il le refuse, amène une personne, deux, trois, si ça ne va pas, dis-le aux anciens. Si on lui parle, s'il n'écoute pas, on le met devant l'Église et on le met sous discipline. N'est-ce pas? Alors, nous avons tous le droit de se reprendre les uns les autres. Mais comment? Mais comment? Dans l'amour et dans la vérité. Dans l'amour et dans la douceur. Dans l'amour et dans la compréhension. Est-ce que ça va? Nous avons tous le droit de faire cela, parce que nous sommes une famille. Et dans ma famille, quand mon frère, ma soeur fait quelque chose, j'ai le droit de le reprendre. Vous allez dire, ah, ici, ce n'est pas comme ça. Mais dans la famille de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Consolez ceux qui sont abattus. Ça voudrait dire quoi? Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont découragés. Ce n'est pas seulement la job des anciens, c'est la job de chacun de nous. Si je vois un frère qui est découragé, qui est abattu, il est de mon devoir d'aller le voir. Il pleure seul dans son coin, il est malade, il vit une situation calamiteuse et une situation difficile. Il est de mon devoir d'aller le voir ou d'aller la voir et la prendre dans mes bras ou le prendre dans mes bras ou m'asseoir avec lui, prier avec lui, parler avec lui. Amen. N'attendez pas que les anciens fassent tout. Ils ne peuvent pas tout faire. À moins que si vous les clonez en dizaines de milliers, j'espère que vous ne me clonerez pas parce que si vous n'aimez pas ma tête, si tu me clones, tu vas avoir trop de troubles après. Donc, et c'est ça, nous devons prendre soin. On a mis des frères, on a des sœurs dans l'Église et qui nous aident, qui donnent un coup de main aux anciens. Mais si tout le monde faisait ça, imaginez-vous, il y aura moins de problèmes, n'est-ce pas? On ne va pas courir comme une queue de veau. supporter les faibles. Non seulement on doit consoler, on doit avertir, mais on doit consoler, mais on doit aussi supporter. Supporter, ce n'est pas facile. Supporter les faibles. J'ai une image pour ça. Je vais vous amener ça pour que vous voyez. Ceux qui sont abattus et ceux qu'on doit avertir. Et ici, consoler, supporter les faibles. Ce bébé est fragile, est faible. Mais quand il pleure, on peut le prendre, le consoler, n'est-ce pas? On le supporte, on lui apporte le besoin dont l'enfant a. Supporter, ça voudrait dire, ça peut être un support spirituel. Ça peut être matériel. Ça peut être de prier avec la personne. Ça peut être d'apporter un don quelconque à la personne. Une aide quelconque, comme nous avons ici les frères, le comité d'entraide. On apporte de l'aide à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin des fois, quand ils en ont besoin. Et ce n'est pas mauvais. Notre société même copie l'Église. Quand on parle réellement de UNICEF, on parle de Vision Mondiale, on parle de d'autres organismes, ils nous aident, ils aident les gens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le besoin est là. Et ils ont pris pourquoi? Parce qu'ils ont pris cette idée dans la Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, il était dit d'aider. Et dans la Bible, on doit continuer d'aider. Donc, nous devons nous supporter. Supporter les faibles. Celui qui est faible psychologiquement, faible émotionnellement, faible spirituellement dans la foi, qui a besoin de grandir dans la foi. On peut l'accompagner dans son cheminement, l'aider à comprendre, à connaître les Écritures, à lire. Ne serait-ce que tu prends un nouveau qui est ici, qui ne connaît pas l'ordre de la Bible, et de lui montrer que ça commence par la Genèse, c'est déjà une aide. Amen. Est-ce qu'on peut tous faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que nous allons le faire? Voilà, prenons soin les uns des autres. Usez de patience envers tous. Il y a des gens qu'il faut supporter. Il ne faut jamais te décourager parce que j'avais vu une image il y a longtemps. C'est venu dans ma tête tout de suite. Ce n'était pas dans ma prédication, dans mon témoin. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et la petite fille portait son petit frère sur son dos. Elle travaillait durement toute la journée sous un soleil d'aplomb. Et puis comme elle travaillait difficilement, et puis quelqu'un lui dit, mais tu as un gros fardeau sur ton dos, il faut l'enlever. La petite se tourne et dit, non, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Amen. Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Nos frères et sœurs ne devraient pas être un fardeau pour nous. On doit être capable de les supporter, de les aider, de les soutenir. Mais on doit user de patience envers eux. La patience, ça voudrait quoi? Ça voudrait dire question de temps. J'ai mis une montre. Être patient, c'est savoir attendre le bon temps, le temps de Dieu, pour que les choses finissent à temps. Pour que les choses se réalisent à temps. Moïse n'a pas su attendre le temps de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré à Canaan. Il a frappé le rocher deux fois. Il n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'a pas su être patient. Il a voulu sortir Israël de l'Égypte par ses propres forces. À son temps, à lui, il a tué quelqu'un. Il a dû s'exiler dans le rang de Madian pendant 40 ans. La patience est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. On peut trouver là-bas. Quand on est patient, on peut faire beaucoup de choses. Sarah n'a pas été patiente. Elle a mis un ennemi devant son fils. Elle a pris sa servante, elle l'a donnée à son mari parce qu'elle voulait avoir à tout prix son enfant. Elle voulait s'auto-exaucer elle-même. Elle voulait à tout prix avoir cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un ennemi devant son fils à cause de manque de patience. Par manque de patience, nous pouvons faire beaucoup de dégâts dans la vie de nos frères et sœurs. En tant que famille de Dieu, soyons patients les uns envers les autres. Donnons du temps à ceux qui doivent changer, de pouvoir changer tranquillement. Soyons patients et notre patience va se démontrer comment? Par l'amour que nous avons pour eux. Quand on aime quelqu'un, on est patient pour attendre. C'est le degré de notre amour pour quelqu'un qui est démontré au travers de notre patience. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas être patient. Je sais qu'il y a des gens qui te tapent sur le nerf, tu as envie de sauter au plafond. On dirait qu'eux, ils savent le bouton qu'il faut appuyer. Quand ils t'appuient, ding, tu sautes. Mais je sais que ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'ils savent aller tirer sur notre gros nerf. Hein? Mais en même temps, que Dieu nous aide à être patients les uns envers les autres. Usez de patience. Il dit, prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. La vengeance n'est pas de Dieu, d'enfant de Dieu. Le peuple chrétien n'est pas appelé à se venger. Le chrétien n'est pas appelé à se venger. Et cela, dans son foyer, dans sa famille, dans son travail, partout où il se trouve, il n'est pas appelé à se venger. La vengeance appartient à Dieu. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Cela relève de Dieu. Vous savez que quand tu ne te venges pas, ce que ça veut dire, si je ne me venge pas, ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que j'ai totalement confiance à la volonté de Dieu. J'ai confiance au plan de Dieu. J'ai confiance à la parole de Dieu. J'ai foi que ce que Dieu a dit, il va le faire. J'ai foi en sa parole, parce qu'il dit que lui va tirer vengeance. Peut-être ça ne se fera pas à mon temps à moi, peut-être ça ne se fera pas à ma manière à moi, mais une chose est certaine, Dieu va tirer vengeance. Alors, si je peux lui faire confiance, alors quand je refuse de me venger, je fais confiance à Dieu. Je démonte ma foi. Seigneur, je te laisse faire les choses, parce que tu sais faire les choses, non seulement en son temps, mais mieux que quiconque. Et quand toi tu le fais, il n'y a pas de reproche. Personne ne peut te condamner. Je m'attends à toi. C'est aussi une façon d'avoir la foi. Et si on ne se venge pas, pourquoi cela ne devrait pas arriver au milieu du peuple de Dieu? Parce que nous sommes une famille de Dieu. Une famille où il y a la vengeance, qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. C'est une famille qui sera disloquée. C'est une famille qui sera détruite. C'est une famille qui n'existera plus. Une église où il y a la vengeance, une église qui se nourrit de la vengeance, elle n'existera plus. Et personne ne voudrait être là. Et nous, nous sommes des enfants de paix, des enfants de joie, appelés en Jésus-Christ pour pouvoir bâtir un royaume différent de ceux du monde. Dieu nous appelle à être un modèle pour le monde. Si le monde n'est plus un modèle, l'Église demeure un modèle. Amen. Et chaque chrétien, c'est pourquoi ma paix dépend de ta paix. Et chacun de nous, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne-le. Et pour ne pas me venger, je dois accepter de pardonner. Ça, c'est le comment, là. Je dois accepter de pardonner. Je dois éviter d'avoir de l'amertume dans mon cœur, de faire de mon cœur une valise qui emmagasine les mauvais souvenirs. Moi, je dis non. Mon cœur n'est pas une valise qui garde de mauvais souvenirs. Je n'en ai même pas pour des bons souvenirs. Pourquoi je vais garder pour des mauvais souvenirs? Alors, ma femme me dit souvent, excusez-moi si je le dis, je dis, chérie, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, oui, tu le sais. Je dis, oui, mais je veux savoir si tu m'aimes. Mais pourquoi tu m'aimes? Elle me dit deux choses des fois. Deux, elle dit, Adama, je t'aime parce que tu es un homme qui craint Dieu. Et deuxièmement, je t'aime parce que tu n'es pas rancunier. Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas garder rancune. Ça, ce n'est pas dans ma personnalité. Je vais dire ce que je pense, puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais ceci pour vous dire, frères et sœurs, si nous voudrons être en paix avec tous, n'ayons pas de la rancune. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, assieds-toi, prends le bon temps, réglez-le comme il faut. Plutôt que de placoter à des gens qui ne pourront même pas les résoudre. Tu fais du tort à tout le monde et tu fais du tort à toi-même et du tort au peuple de Dieu. En dernière position, recherchez toujours le bien de tous et entre vous et entre tous. Recherchez le bien. Courez après le bien. Rechercher le bien, c'est courir après. Ce n'est pas attendre que le bien vienne. Je dois chercher à faire le bien à tout moment. Dans mes pensées, dans mes objections, mes objectifs, ça doit être toujours à faire du bien. Même si quelqu'un me fait du mal, je réponds par le bien. L'enfant de Dieu, la différence, c'est naturel pour tout le monde de répondre le mal pour le mal. La loi du talion est interdite aux chrétiens. Œil pour œil, dent pour dent, la Bible te l'interdit. Ça, c'est la loi du talion. Il dit, toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, on ne fera pas ça. Donc, pour cela, je dois poursuivre le bien à tout moment. Pas pour moi seul, pas pour le nombrilisme, non, pour tout le monde. Non seulement entre nous comme enfants de Dieu, mais aussi même avec ceux du dehors. Je dois chercher le bien pour eux. Je dois désirer leur bien. Je dois être bon et travailler dans le bien de la communauté, de l'ensemble de tous pour que nous soyons heureux. Est-ce que nous sommes une famille? Nous sommes la famille de Dieu? Et les règlements qui doivent régir la famille de Dieu, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, si, en conclusion, pour terminer, nos leaders ne sont pas parfaits, Mais n'attendons pas qu'ils soient parfaits avant de les aimer, les respecter, les apprécier, ou même de nous soumettre à eux. À cause de leur consécration dans le service de Dieu, ils méritent notre respect. Ce que 1 Pierre nous dit, on l'a déjà lu tantôt. Dernier point de ce point-là. Afin de vivre dans une famille, si nous voulons vivre une famille vraiment comme Dieu nous demande, vu que nous sommes famille, nous avons tous des responsabilités les uns envers les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres, prendre soin des uns des autres, arrêter de se calomnier, arrêter de détruire les uns les autres, arrêter de faire des jambettes, arrêter d'attaquer notre leadership ou bien mes frères et sœurs. On doit aider. Si quelqu'un commence à faire ça, tu lui dis non, je ne suis pas dedans, tu le fais asseoir et puis tu le reprends. Moi, j'avais un oncle qui faisait cela. Paix à son âme, il est décédé. Si tu t'asseyais avec lui, tu commences à critiquer quelqu'un, il envoyait son fils pour aller appeler la personne. Quand la personne vient, il dit, « Hey, assieds-toi. » Il dit, il parlait de toi tout de suite, là, il disait ça, je voulais que tu sois au courant, donc il n'a qu'à te dire à toi, parce que moi, je n'ai rien à voir dedans. Il se lève, il prend ses clics et ses claques, il est parti. Il dit, « Réglez vos problèmes entre vous. » Que Dieu nous aide. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voudrons être le peuple que tu attends de nous. Nous voudrons être ce que tu veux que nous soyons. Un peuple en harmonie, un peuple en paix, un peuple en joie. Alors Seigneur, aide-nous à être cela. Nous avons appris tout ce que nous devons faire pour devenir cela. Maintenant, nous avons besoin de ta force tous les jours pour y devenir, pour y parvenir. Et bénis chacun de nous. Et bénis le repas que nous allons prendre tantôt. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ.